Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et avec nous, Jean-Pierre Foulty, évidemment. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Allez, un nouveau pas de côté, dites-vous, dans cette série consacrée à la presse européenne, puisqu'il y a quelques temps, en effet, dans une série sur l'Europe de la peinture, je me souviens, vous nous aviez promis de consacrer une chronique à la caricature de presse.
C'est exact. Nous sommes en effet, avec cette problématique de la caricature, au carrefour de trois thématiques que j'ai abordées dans les différentes séries de mes chroniques culturelles de l'Europe. Celle de la liberté de la presse dont j'ai parlé la semaine dernière, celle de l'art dont la caricature, qu'elle soit dessinée, sculptée ou audiovisuelle, est une des facettes, et enfin celle des événements tragiques de ces dernières années qui lient liberté d'expression et religion et qui posent la question d'ordre philosophique ou moral, peut-on publiquement rire de tout ? C'est donc au croisement de ces thématiques et dans le périmètre de la culture européenne dont elle est de plusieurs façons un pur produit que je traiterai aujourd'hui de ce sujet des caricatures. Des caricatures qui, nous le savons bien, ont trouvé non loin de chez nous, et ceci depuis 40 ans, à Saint-Just-Martel, un lieu d'accueil dans son salon international de la caricature, du dessin de presse et d'humour. Le choix récent du président de la République de créer à Paris la future maison européenne du dessin de presse et satirique y a été, je crois, plutôt mal reçu. Mais revenons non pas à nos moutons, mais à notre humour vache.
Belle référence. Alors ce serait l'Europe qui aurait inventé la caricature ?
Celle-ci y est en tout cas apparue très tôt et elle fait à l'évidence partie de la culture européenne. Elle est en effet une forme d'art graphique, mais surtout une façon d'exprimer par ce biais un point de vue critique sous des traits exagérés et souvent ironiques. On a retrouvé sur des poteries de la Grèce antique ou sur des murs de Pompéi des caricatures avec gros nez et menton proéminent de personnages publics. Au cours des siècles, cette pratique de ce que l'on appelle le portrait-charge se généralise et au XVIIIe siècle, en Angleterre et en France, les caricaturistes n'hésitent pas à s'attaquer aux hommes politiques en place et même aux têtes couronnées. C'est avec le développement de la presse au XIXe siècle qu'elle va connaître ses heures de gloire. Peut-être certains de nos lecteurs se souviennent-ils avoir vu dans leur manuel d'histoire autrefois les caricatures du roi Louis-Philippe avec un visage en forme de poire. Ce dessin attribué à Honoré Daumier est d'ailleurs à sa publication en 1831 dans un journal satirique intitulé justement « La caricature », un exemple même de caricature d'un pouvoir qui avait de la peine à accepter une liberté de la presse qu'il avait pourtant proclamée un an plus tôt.
C'est ça, mais faites ça plutôt avec les autres qu'avec nous. Ça veut dire que la caricature, elle est d'abord politique. On peut citer par exemple les guignols de l'info.
L'exemple est bien choisi, Sébastien, mais il est récent. Alors que le phénomène remonte à plusieurs siècles, nous l'avons dit. Elle s'est développée partout en Europe occidentale au XIXe siècle, ce siècle de la laborieuse implantation de la démocratie en Europe et donc de la liberté d'expression. Le dessin de presse occupe alors une place importante dans les journaux, dont certains ont même fait de la caricature leur spécialité. Elle est ainsi, à cette époque de débat sur la séparation des églises et de l'État, un outil de combat du féroce camp anticlérical. Plus récemment, et notamment lors des deux guerres mondiales, les caricatures anti-Boche ou de l'autre côté anti-françaises se multiplient. Et encore plus près de nous, vous aviez raison de le remarquer, c'est aussi à la télévision que la caricature s'est installée. Les guignols de l'info en France n'en sont qu'une illustration. Une caricature qui n'hésite pas à moquer aussi les religions. Le pape et la religion catholique en général seront des cibles de choix pour les journaux satiriques et on sait que la publication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet parue dans un journal danois a servi de justificatif à la folie meurtrière du 7 janvier 2015. Où l'on voit qu'une des valeurs européennes fondamentales, celle de la liberté d'expression, n'est pas partagée par tous et que les vieux débats sur la représentation du divin que j'ai évoqué dans une autre chronique ne sont pas enterrés loin de là.
Mais est-ce que pour autant la liberté d'expression elle est garantie par les institutions européennes ?
Oui. Dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, adoptée en 2000 et aujourd'hui devenue contraignante. Toutefois, l'instance juridique chargée d'arbitrer les conflits portant sur la pratique des droits de l'homme, donc sur l'usage de la liberté d'expression, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, ne dépend pas directement de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe. Je rappelle que le Conseil de l'Europe est une institution créée en 1949 et qui regroupe actuellement 46 pays, beaucoup plus donc que la seule Union européenne, dont le but premier est de renforcer la démocratie en Europe en y proclamant la prééminence du droit. Le texte fondamental en matière de droits de l'homme est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée en 1950, dont la CEDH est chargée d'assurer le respect. Celle-ci s'est donc vue soumettre à plusieurs reprises des cas dans lesquels des publications de caricatures étaient dénoncées, notamment par des instances religieuses. La CEDH, donc la Cour des droits de l'homme, a ainsi rendu des jugements dans lesquels elle s'est efforcée de concilier deux principes qui s'avèrent dans ce cas souvent contradictoires. Celui de la liberté d'expression d'une part, et de l'autre, c'est sa dénomination officielle, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Une question difficile sur laquelle les sensibilités divergent. Ainsi, tous les pays européens ne partagent pas forcément la conception française de la laïcité qui reconnaît le droit au blasphème.
Et c'est donc sur cette réflexion très sérieuse que vous allez conclure cette série de 5 chroniques que vous avez donc consacrées à la presse européenne. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler le sujet de la prochaine et dernière série de chroniques de cette saison ?
Allez, pour une fois.
Un geste.
Allez, eh bien, la prochaine fois et les fois suivantes, nous parlerons des capitales de l'Union européenne. Et j'insiste, Sébastien, sur les guillemets que je mets au mot capitale.
On vous laisse réfléchir à tout ça. Et l'explication de texte, ce sera donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, une très très belle semaine, Jean-Pierre.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.